Dans les documents qui circulent entre les différents ministères, je tombe sur un chiffre. Un enfant est tué par sa mère tous les 10 jours en France. En note de bas de page, les experts écrivent que c'est sûrement sous-estimé, qu'on ne disposerait pas des bons outils pour connaître le nombre exact. Elles sont infirmières, cadres, mères au foyer. Elles utilisent les mêmes méthodes, suivent les mêmes raisonnements, disent les mêmes phrases. La majorité des enfants tués, eux, n'étaient pas des nourrissons. Ils étaient en âge de marcher, d'aller à l'école, d'avoir une couleur préférée. Pourtant, sur le meurtre de ces enfants-là, je n'ai rien trouvé. J'ai accumulé des dizaines de dossiers pour tenter de comprendre. J'ai cherché ce qui les reliait entre elles. J'ai appris que c'était souvent des mères aimantes. Beaucoup tentaient de se suicider par la suite. Dans les PV d'audition, à la question du pourquoi, elles répondent toutes la même chose. Je n'avais pas le choix. Mais les interrogatoires restent sur les faits. L'heure, le choix du lieu, le déroulé. Comme si on n'avait pas posé les bonnes questions. Alors j'ai écrit à ces femmes en prison. J'ai écrit aux personnes qui les ont soutenues. À leurs avocats, à leurs mères, à leurs sœurs. J'ai écrit à celles qui ont failli passer à l'acte. Pour qu'elles me racontent. Pour qu'elles se racontent. Cher maître, chère Léa, chère Julie, chère Sophie, chère Cécile, chère Blanche, chère Alexia, j'aimerais comprendre ce qui se passe dans la vie d'une femme pour en arriver là, pour estimer qu'il n'y a pas d'autre choix. Je veux prendre le temps de déplier les choses, d'observer là où la machine s'est enrayée. Si vous acceptez de me confier votre parole, je promets d'en prendre soin. Bien à vous, Sophia Fischer. Et j'ai attendu leur réponse.
Lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, la réalisatrice Sophia Fischer a proposé un film qui analyse l'infanticide sous l'angle du patriarcat et des violences faites aux femmes. Entretien avec Sophia Fischer autour de son reportage « Mère à perpétuité ».
La première étincelle, c'était la fin du confinement. Je me posais beaucoup de questions sur la maternité et sur ce qu'on léguait aux enfants, sur la violence faite aux femmes et donc quels impacts ça pouvait avoir sur les enfants. Et là, ma productrice m'a appelée et m'a dit « Est-ce que tu veux faire un film sur l'infanticide ?» Au début, je lui ai répondu « Écoute, je n'ai jamais fait de film, je ne sais pas, mais laisse-moi quelques mois quand même, je vais creuser, je reviens vers toi. » Parce que je sentais déjà à l'époque qu'il y avait effectivement quelque chose. Et oui, j'ai appelé des contacts que j'avais dans mon répertoire d'avocats et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'ouvrir leur dossier. Et au bout du, je pense que ça devait être le 4e ou le 5e dossier que j'ai refermé parce que je lisais exactement les mêmes phrases, je lisais les mêmes dossiers. Alors que c'était des femmes qui avaient 5, 10, 20 ans d'écart, qui habitaient partout en France. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un sujet à creuser. Au même titre que pour les féminicides, il y a 15 ans, on ne voyait pas le systémisme derrière et que c'était des soi-disant des événements isolés. Je me suis dit, là, il faut qu'on les rassemble parce qu'ils ont des éléments rassembleurs.
Il y a un véritable tabou autour de ce sujet. Donc le documentaire s'ouvre et se ferme sur la même phrase. En France, il y a un enfant qui est tué tous les 10 jours par sa mère. Et il y a un cruel manque aussi de statistiques autour de ce sujet. Est-ce que, justement, commencer à mener des études, à répertorier aussi tous ces infanticides et tout ce qui gravite autour des procès, des sujets au cas par cas, vous avez dit que vous retrouviez les mêmes phrases à chaque fois dans chaque dossier, est-ce que l'étude de tout ça, ça permettrait pas déjà de mettre en lumière ce sujet aussi et potentiellement après de le traiter ?
Évidemment, je pense que bien sûr, il y a un besoin d'étudier. En fait, pour pouvoir combattre quelque chose, faut connaître ses contours et faut savoir à quoi on a affaire. Et là, on n'a aucun chiffre effectivement actuel. Comme pour les films ici d'il y a 15 ans, encore une fois, on n'a pas de chiffres nationaux. Il n'y a pas d'effort national de rassembler ces cas. Donc tout est, en fait, tout dépend de comment l'officier de police ou de gendarmerie ou le gendarme remplit le dossier initialement. Donc il y a énormément d'erreurs, de trous, il n'y a pas de registre national là-dessus. Et tant qu'on n'a pas déjà la base étant les chiffres corrects, c'est très difficile de savoir comment lutter.
Il y a une pluralité de femmes interrogées dans ce documentaire. Il y a des femmes qui ont connu une proche qui s'est suicidée et qui a tué son enfant. Il y a ces femmes qui ont survécu aussi au suicide et qui sont aujourd'hui en prison. Comment vous avez fait aussi pour contacter ces femmes en prison ?
Alors je leur ai écrit une lettre, j'ai écrit la même lettre à tout le monde où je présentais le projet, j'ai expliqué que je cherchais des personnes qui étaient touchées par la question pour qu'elles m'expliquent, pas forcément pour être filmées, pas pour les enregistrer, juste pour qu'elles m'expliquent, pour écouter leurs paroles et c'était tout. Et j'ai écrit cette lettre à des dizaines et des dizaines de personnes, il y en a énormément qui m'ont répondu, en prison ou pas. Et donc j'ai parlé à des dizaines de personnes, toutes n'ont pas accepté de figurer dans le film. Mais leurs récits ont nourri aussi la narration du film, évidemment.
Vous faites intervenir aussi un psychiatre, si je ne dis pas de bêtises, c'est Monsieur Lecambre, c'est
Lacambre.
Ça ? Lacambre, pardon. Et il parle en fait d'un long processus. Ce sont plusieurs vagues qui viennent heurter ces femmes. Et il y a aussi un avocat.
Jean-Guillaume Lemaintier.
Voilà. Merci. Qui explique que les femmes passent à l'acte à cause des violences qu'elles ont subies, et les hommes, eux, passent à l'acte du fait de violences, en fait.
Oui, très souvent. Alors, il dit ça, mais il y a aussi des chercheuses américaines qui ont fait des études là-dessus, qui le disent. C'est que, en fait, ce qu'elles remarquent dans les études qu'elles ont pu faire, c'est que les femmes tuent leurs enfants dans la continuation des violences qu'elles subissent, là où les hommes tuent les enfants dans la continuation des violences qu'ils exercent. Et c'est une différence qui est très importante, en fait, dans la généalogie du crime.
Et donc, du coup, on parle de prise de décision à un moment donné. À aucun moment, il est évoqué l'idée d'un coup de folie. En général, ces femmes, à force de subir des violences, prennent la décision d'arrêter tout ça, en fait, en se suicidant et en emmenant leur enfant avec eux pour pas le laisser tout seul face à tout ça, en fait.
Oui, très souvent, c'est ce qu'on leur reproche d'ailleurs aux assises, c'est la préméditation. Ce ne sont pas des cas, il y a très peu de cas qui se passent d'un coup. Il y a une préméditation, c'est des femmes, c'est très souvent des cas de meurtre très organisés. Donc on va préparer un goûter, emmener l'enfant au parc ou à la fête foraine, dans un endroit qu'il aimait bien, ou à la plage. Après, on va lui préparer un super goûter. En fait, tout est très bien organisé et c'est aussi quelque chose qu'on va leur reprocher au moment des assises, c'est la préméditation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les femmes tuent comme... Enfin, les mères tuent comme elles ont été mères. C'est-à-dire que tout est préparé, tout est cadré, tout est bien fait et bien prévu. Donc elles tuent comme elles ont été mères, en fait.
Il y a une forme de construction sociale aussi qui pousse les femmes à être dans un modèle. Et le fait de devenir maman aussi, donc ça bouleverse un petit peu tout ça. Je me demandais s'il y avait peut-être un lien aussi avec la dépression postpartum. Est-ce qu'il y avait c'était potentiellement une des causes aussi.
Alors il y a effectivement des cas d'infanticide qui sont liés à des dépressions postpartum. Mais moi, ce que j'ai trouvé souvent, c'est que on avait l'impression que si l'enfant survivait à ce qu'on appelle les fameux premiers 1000 jours, il était sorti d'affaire. Or, on se rend compte qu'il y a aussi une énorme partie des infanticides qui se déroulent sur des enfants plus âgés. Des enfants qui parlent, qui vont à l'école, qui ont déjà des petites personnalités, qui ont une couleur préférée. En fait, l'enfant ne cesse pas d'être en danger à partir du moment où il n'est plus un nourrisson. Donc oui, effectivement, évidemment, la dépression postpartum est un facteur de danger, mais le danger ne cesse pas quand l'enfant a atteint un an à peu près, quoi.
Derrière chacun de ces infanticides, il y a aussi un homme, alors soit qui exerce des violences, soit qui est aussi dans le déni et qui ne voit pas sa conjointe, sa femme, on va dire mourir à petit feu.
Oui, j'ai eu un dossier qui m'a semblé extrêmement parlant à ce niveau-là. C'était une femme, donc elle était pédiatre et son mari était violoncelliste. Et elle dit dans son audition chez les policiers, à chaque fois que j'essayais de lui dire à quel point je souffrais, il sortait son violon et il se mettait à jouer. Et je me suis dit, en fait, il y a tout dans cette scène.
Est-ce que vous avez pu parler à des pères ou des maris qui auraient vécu justement l'infanticide de leur enfant ?
Oui, oui, j'ai parlé à plusieurs maris, enfin pères, qui ont perdu leurs enfants à un infanticide de leur ex-conjointe. La majorité du temps, ils étaient en colère. Ceux qui n'étaient pas, en fait, les auteurs des violences étaient en colère contre la société d'avoir abîmé, heurté la mère de leurs enfants au point où, en fait, elle en soit arrivée à ce stade de fragilité-là. Ils n'étaient pas en colère contre elle, en fait. Ils étaient en colère contre le monde entier, mais pas contre elle. Sauf un père qui participait beaucoup aux violences physiques, psychologiques contre sa conjointe, et lui continuait à dire qu'en fait c'était une folle mal alignée, et que je cite, il a eu la malchance de tomber sur une tarée.
Aujourd'hui on se demande aussi s'il n'y a pas des failles dans le système de santé, parce que alors vous échangez aussi avec le public à l'issue de la projection du documentaire. Et vous disiez aussi que vous étiez étonnée par le nombre de femmes qui pouvaient venir vous voir après les séances, qui pouvaient aussi vous envoyer des mails, des courriers, pour après avoir visionné justement ce documentaire. Et beaucoup de femmes qui disaient aussi qu'elles avaient toute une porte de secours, elles y avaient déjà pensé. Et souvent aussi, via l'idée d'utiliser des médicaments, et que c'était des femmes très souvent qui avaient accès aussi à des anxiolytiques.
Beaucoup de femmes aujourd'hui ont accès à des anxiolytiques. En France, on a une quantité de consommation d'anxiolytiques qui est hallucinante. Et donc, oui, je m'interrogeais, en fait, face au nombre de... Dans tous les cas que j'ai pu voir, c'était toujours avec des médicaments que les meurtres avaient été commis. Donc, en fait, il y a toujours la question qui se pose de... Mais si elles ont accès à ces médicaments-là, surtout en plus que c'était des anxiolytiques assez puissants, je me disais, mais comment est-ce que personne ne s'est interrogé, en fait, sur l'état réel de leurs patientes? Et puis, pour les femmes qui viennent me voir à la fin des séances, c'est vraiment des femmes qui me disent, moi, j'ai un tiroir. Mais il y en a une, notamment, qui m'a dit, j'avais eu un tiroir pendant des années fermé à clé avec des médicaments pour le jour où mon fils et moi on devrait quitter ce monde, quoi. Et ça, c'est des femmes qui aujourd'hui vont au travail, vont aux réunions parents prof, personne ne se doute de rien. Or chez elles, il y a un tiroir fermé à clé avec des médicaments au cas où un jour elles doivent tuer leur enfant et se suicider. On a du mal à comprendre à quel point il y a un nombre incroyable de femmes qui ont déjà pensé à ça et qui en plus ont déjà un scénario très précis dans leur tête.
Quand vous avez posé la question aux avocats avec qui vous aviez déjà été en contact, est-ce qu'ils avaient déjà eu une affaire avec un infanticide ? Ils vous ont tous répondu oui. Devant l'ampleur de tout ça, est-ce qu'il y a des personnes qui se mobilisent peut-être pour essayer de mettre en place des cellules d'écoute, des groupes de parole, d'accompagnement ?
Non, pas du tout. Pour l'instant, il y a comme vous l'avez dit au début, c'est un sujet extrêmement tabou. Personne ne se mobilise vraiment là-dessus. Dans les années 80, j'ai trouvé des traces d'un mouvement féministe au Japon qui s'organisait pour aller devant les tribunaux pour soutenir les femmes qui avaient tué leurs enfants. Donc, elles faisaient un sitting devant les tribunaux. Il y avait même des manifs, parfois, où elles disaient « Femme infanticide, je te comprends ». Donc, il y a eu, parfois, dans les mouvements féministes, certaines vagues qui ont essayé de s'organiser. Mais, en fait, c'est un tabou tellement immense que c'est vrai que c'est très difficile, aujourd'hui, d'organiser un mouvement autour de ça.
Alors, comme d'habitude, il va peut-être falloir que ça commence par les femmes, avec les femmes. Vous citez aussi le cas d'un infanticide en Belgique où des femmes ont écrit à la procureure.
Ça, c'était exceptionnel. C'est un infanticide qui est très connu en Belgique. C'est une femme qui a tué ses 5 enfants. Et en lisant le dossier d'instruction, mais vraiment comment par hasard, quoi, dans une annexe, je tombe sur des dizaines de lettres qui avaient été écrites par des femmes, que les femmes avaient envoyées spontanément à la juge d'instruction pour dire « Madame, s'il vous plaît, soyez clémente, j'aurais pu faire la même chose ». Et c'était des boulangères, des profs, des femmes au foyer qui avaient dit « Voilà, moi je la comprends, j'aurais pu faire la même chose, s'il vous plaît, soyez clémente ». Et j'ai trouvé ce mouvement de solidarité envers une femme qu'elle ne connaissait pas, dont elle avait vu passer aux infos qu'elle avait tué ses 5 enfants, et leur réflexe, pas à une, pas à deux, mais à des dizaines, c'est de prendre un papier et d'écrire une lettre à la juge d'instruction pour lui dire « Attention, j'aurais pu faire la même chose, la majorité de mes amis aussi, donc prenez ça en compte dans votre jugement ».
Pour terminer, ce documentaire, il va contribuer justement à essayer de sortir de ce tabou. Est-ce qu'il a une suite de vie prévue, des projections prévues autour de différents événements comme le FIGRA ?
Alors oui, il est de nouveau en ligne sur la plateforme d'Arte, je l'ai appris ce matin, jusqu'au 30 juin. Et on espère faire d'autres festivals comme celui du FIGRA, évidemment.
C'était un reportage réalisé lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui s'est déroulé du 1er au 5 avril à Douai. On était en compagnie de Sophia Fischer, réalisatrice du film documentaire « Mère à perpétuité » et qui a reçu deux prix lors de l'édition 2025 du FIGRA. Le prix des activités sociales de l'énergie, autrement vu, et le prix Eina Roger, ESJ, Lille.